Ce matin, on va commencer avec une question assez simple. Qu'est-ce qui fait bouger les marchés financiers en ce moment ? Les résultats des entreprises ? Non, pas du tout. Les chiffres macroéconomiques ? Non plus. L'inflation ? Encore moins. Non, le seul truc qui fait bouger les marchés en ce moment, c'est un coup de téléphone raté via le Pakistan entre Trump et Téhéran. Bienvenue dans ce monde de la finance en 2026 où un baril de pétrole et un espoir de paix, même ténu, vaut beaucoup plus que n'importe quel rapport économique produit par une armée d'analystes et de stratégistes. On va donc décortiquer tout ça ensemble, assez rapidement, et croyez-moi, c'est à la fois fascinant, inquiétant et par moments complètement absurde. Et quand je dis complètement absurde, c'est pour rester poli. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 mars 2026, je suis Thomas Bayet, et pendant plusieurs jours, je vais vous commenter la finance depuis Lyon.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Depuis plusieurs semaines maintenant, vous avez vu, les marchés financiers mondiaux ont une relation codépendante avec deux choses, le baril de pétrole et les nouvelles du Moyen-Orient, ce qui est plus ou moins similaire. Et cette relation, elle fonctionne tout simplement comme ça. Trump annonce un plan de paix, les marchés montent, le pétrole baisse, l'Iran dit non, les marchés baissent, le pétrole monte, etc., etc. C'est l'espèce de cycle vertueux. C'est mécanique, c'est pavlovien, et c'est presque beau dans sa simplicité, c'est presque pur. Sauf que voilà, hier, Trump a sorti un plan de paix en 15 points. 15 points. Probablement réglé, rédigé sur un coin de bureau entre deux tweets, mais bon, le principe y est, et 15 points. Et les Iraniens ont répondu, hein. Et là, attention, hein, parce que c'est là que ça devient subtil. Les Iraniens, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non plus, ils ont dit on refuse catégoriquement, mais on va quand même l'étudier. Je vous laisse un tout petit instant pour apprécier la beauté diplomatique de cette phrase. Mais à Wall Street, on ne dort jamais et on lit tout très vite, on a retenu une seule chose, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir sur les marchés, eh bien on achète. Point barre. C'est aussi simple que ça. Peu importe que la marine iranienne, celle qui est censée être au fond du golfe Persique depuis des semaines selon Donald Trump, ait quand même réussi à tirer des missiles en direction du porte-avions Abraham Lincoln dans la journée, peu importe que Téhéran continue de dire officiellement qu'ils se battront jusqu'au dernier homme, non, l'espoir, c'est l'espoir, et ça vaut bien plus que tout. En tous les cas, pour le moment. Voilà donc le niveau de rationnel qui gouverne 50 000 milliards de dollars d'actifs financiers mondiaux. Bon, pendant que les traders font du ping-pong avec les futurs sur le WTI, les économistes et les stratégistes, eux, ils essayent de regarder un petit peu plus loin que demain matin. Et ce qu'ils voient, pour l'instant, c'est pas franchement réjouissant. Premier constat, le baril est coincé dans une espèce de fourchette entre 85 et 105 dollars. Et il va probablement y rester tant qu'on n'a pas de résolution claire du conflit. Et Trump est assez fort pour le garder dans ce range-là. Deux scénarios extrêmes sont donc sur la table. Le scénario optimiste, Trump réussit sa paix, les troupes rentrent à la maison, le baril redescend à 65 dollars et tout le monde est content, champagne. Et puis le scénario black, le scénario cauchemar. Les Américains débarquent sur l'île de Karg, rasent les infrastructures pétrolières iraniennes et le baril explose à 125 dollars, voire plus. Et même s'ils gagnent la guerre, les Américains, et remplacent les gardiens de la Révolution par des Iraniens qui ont grandi aux États-Unis, il faudra des mois et des mois et des mois pour relancer les infrastructures pétrolières de la région. Et pendant ce temps-là, 20% de la production mondiale est toujours dans le pâté. Pour l'instant, on est entre les deux, et tant qu'on est entre les deux, le marché y survit. Mais voilà ce que personne ne veut vraiment entendre. Plus ça dure, plus ça fait mal, plus ce conflit dure longtemps, plus ça va devenir compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu ce que vous payez à la pompe en ce moment, pour ceux qui n'ont pas de voiture électrique, bien sûr. Il n'y a encore pas si longtemps, le litre d'essence était à 1,60. Aujourd'hui, on frôle les deux balles et ça paraît complètement anodin, mais ça ne l'est pas. Parce que le pétrole, c'est pas juste ce qu'on met dans la voiture. C'est aussi dans les plastiques, dans les emballages, dans le transport, dans ce qu'on mange, dans les matériaux de construction, dans absolument tout ce qui nous touche de près ou de loin. Le second effet qui se coule de la guerre pétrolière, il n'est pas encore vraiment arrivé. Mais chaque semaine qui passe va faire qu'il va arriver et qu'il se rapproche de plus en plus. Et quand on sait que l'inflation a déjà pris 25 à 30% ces 5 dernières années, sans que nos salaires suivent vraiment, si ce conflit dure encore ne serait-ce que 6 mois, je vous laisse faire le calcul, je vous laisse imaginer l'impact économique que ça pourrait avoir. Mais attention, le marché, lui, pour l'instant, il s'en fout du calcul à 6 mois. le marché, lui, vit dans les 12 prochaines minutes. Les 12 minutes, c'est littéralement son horizon temporel du moment. Alors, pour l'instant, on profite de l'espoir jusqu'au prochain tweet de Trump ou à la prochaine déclaration à l'emporte-pièce du gouvernement iranien ou de ce qu'il en reste. Mais il y a une chose qu'il faut quand même signaler, c'est que pour la première fois depuis le début de la guerre, les médias financiers ont l'air de se lasser et commencent à parler d'autres choses. On commence à parler d'autres sujets qui se rapprochent un peu plus de la finance traditionnelle et pas des relations incestueuses entre le baril et le S&P 500. Et là, on change complètement de sujet. Parce qu'il y a une news hier qui n'a pas fait trembler le marché, qui n'a fait trembler personne en bourse, pas encore en tous les cas, mais qui pourrait changer la face du monde numérique. Selon l'issue. Il y a un tribunal à Los Angeles qui vient de condamner Meta et Alphabet à payer 6 millions de dollars de dommages et intérêts. Pourquoi ? Eh bien pour avoir rendu leurs applications trop addictives. Je répète, hein, on a infligé une amende à Meta et à Google parce que leurs applis sont trop bien faites. Parce que le scroll infini, les notifications, les algorithmes, bref, tout ce qui fait qu'on ouvre Instagram juste pour 2 minutes et qu'on ressort une heure plus tard en ayant regardé des vidéos de chat et des réels de cuisine qu'on ne cuisinera jamais. Eh bien, figurez-vous que maintenant, c'est de leur faute. C'est plus de votre faute parce que vous passez trop de temps sur vos téléphones, c'est de leur faute à eux. Un jury américain a décidé de verser 6 millions de dollars à une jeune femme qui dit avoir sombré dans la dépression à cause de son addiction aux réseaux sociaux. Et je suis désolé, mais là, faut qu'on en parle. Oui, parce que les algorithmes sont conçus pour capter l'attention. Oui, c'est une industrie qui exploite nos biais cognitifs. Oui, c'est réel, c'est documenté. Et d'accord, c'est discutable. Mais le raisonnement juridique qu'on est en train d'établir en ce moment, c'est le suivant. Si tu n'arrives pas à poser ton téléphone, c'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de l'entreprise. On est donc en train de dire à des adultes que leur manque de discipline appartient à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un glissement qui devrait inquiéter quand même un tout petit peu le monde entier. Parce que si on pousse la logique jusqu'au bout, on peut aussi attaquer McDo parce que les frites sont trop bonnes. On peut traîner Netflix en justice parce que, allez, juste encore un épisode de plus. Ou alors on poursuit Red Bull parce qu'on en boit 5 par jour pour rester réveillé. Il fut un temps où on attaquait les fabricants de cigarettes parce qu'on prétendait ne pas avoir compris que fumer, c'était mauvais pour la santé. C'est exactement le même playbook et ça a quand même coûté des milliards et des milliards à l'industrie du tabac. Maintenant, et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant pour les investisseurs. Les 6 millions d'amendes, Meta et Alphabet s'en tapent complètement. C'est littéralement leur budget qui a fait d'une journée. Mais le précédent juridique, lui, il est carrément dévastateur. Derrière ce jugement, il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de plaintes en attente. Des écoles qui attaquent, des États entiers qui s'engouffrent dans la brèche, une classe politique qui adore le sujet parce que protéger les enfants, c'est le bouton magique qui met tout le monde en émoi à Washington. Et si cette logique s'impose, les plateformes vont devoir changer ce qui fait précisément leur valeur, à savoir maximiser l'attention, moins de notifications, moins d'algorithmes dopaminergiques, donc moins de temps passé, et donc moins de revenus publicitaires. Et là, on commence à toucher au moteur. Meta et Alphabet ne vont pas mourir demain, mais ils viennent de franchir une ligne invisible. Ils ne sont plus seulement des innovateurs géniaux, ils sont désormais des suspects. Et dans l'histoire des marchés financiers, quand une industrie passe du statut de génie à celui de coupable, c'est rarement une bonne nouvelle pour les actionnaires. Changeons un peu de sujet. Ce matin, l'Asie est dans le rouge. Le rebond américain d'hier soir, celui qu'on doit à l'espoir de paix, n'a pas vraiment survécu sur la nuit. La Corée du Sud prend le plus gros coup ce matin. Le Kospi s'effondre de 3,5% parce qu'Alphabet a sorti un nouveau produit qui s'appelle TurboQuant et qui pourrait réduire les besoins en mémoire pour l'IA. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Samsung et Hynix qui cartonnaient justement grâce à la demande en mémoire pour l'IA. Un coup de genou dans le tibia pour rester poli de tout le secteur. Le Japon, lui, recule de 1%. Lui, c'est un autre problème. Il est en train de se vider de ses réserves stratégiques de pétrole pour absorber le choc économique de la guerre. Le problème est donc loin d'être réglé. Ça commence déjà à se compliquer pour les Japonais. Hong Kong baisse de 2%, la Chine de 1% et les futurs américains reculent de 0,37%. Le rendement du 10 ans américain est à 4,36%. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la hausse d'hier est déjà pliée. Et l'espoir, pour l'instant, a une durée de vie qui frise les 12, allez, peut-être jusqu'à 24 heures. Quelques notes rapides en passant, on notera que SpaceX pourrait bientôt entrer en bourse avec une valorisation de 1750 milliards de dollars, ce qui rapprocherait Elon Musk du statut de premier trillionnaire de l'histoire. Arm Holding a annoncé sa première puce dédiée à l'IA pour concurrencer Nvidia. Les experts disent que Nvidia n'a aucun souci à se faire. Et puis, on notera aussi que Meta a déposé une demande de stock option auprès des autorités pour que 6 de leurs dirigeants, sans Zuckerberg, puissent obtenir des stock options et avoir un target de performance, on va dire, si Meta atteint les 9000 milliards de capitalisation boursière en 2031, ces gars-là vont toucher des monstres bonus absolument phénoménaux. 9000 milliards sur Meta en 2031, ça voudrait dire grosso modo que le S&P 500 est à 15 000. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Tout d'abord, les marchés sont en pilote automatique et géopolitique. Tant que le conflit au Moyen-Orient n'est pas réglé, eh ben, tout le reste, c'est du bruit et du bruit. En deux, le vrai danger, c'est pas vraiment la journée d'hier, c'est l'accumulation. Chaque semaine supplémentaire de pétrole très cher, c'est une couche de plus sur une économie mondiale déjà fragilisée par 5 ans d'inflation. En trois, l'affaire Meta Google, elle est petite aujourd'hui, mais elle peut devenir énorme demain, donc c'est une chose à surveiller. Et en quatre, c'est peut-être le plus important, on nous rappelle une fois de plus que nous sommes tous égaux devant les marchés financiers, mais il y en a qui sont beaucoup plus égaux que les autres et ils ont tous le numéro de téléphone du président Trump. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis likez, partagez, commentez, et puis revenez demain pour de nouvelles aventures. Très belle journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.